Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous entraîne cet après-midi chez les empereurs romains. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons surtout évoquer l'empereur Commode, qui n'avait de commode que le nom. Je suis ravi de recevoir Catherine Sall pour explorer une époque et des lieux de pouvoir qui ne cessent de nous étonner. Vous allez voir que cette émission est pleine de surprises.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Marie qui souhaite connaître les origines de la commode, le meuble.
Eh oui, avouez que ça, le hasard fait bien les choses. Évidemment, il ne s'agit pas du tout d'un hasard. Mais avant, la commode, le commode, si je puis dire, bienvenue dans la Rome impériale.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il y a dans cette longue période impériale romaine comme un panthéon malfaisant d'empereurs fous. Alors on pourrait en citer un certain nombre, évidemment Caligula, Néron, c'est le plus célèbre, Domitien, Héliogabale, enfin il y en a un certain nombre. Le plus intéressant peut-être, en tout cas celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le fameux Commode, qui règne de 180 à 192 de notre ère. Le moins qu'on puisse dire est qu'il a inspiré les portraits les plus détestables dans la littérature classique. On va y venir dans un instant. Si vous voulez vous faire une idée rapide de Commode, rappelez-vous, c'est tout simplement l'empereur du film Gladiator. C'est ce qui l'a rendu, ce qui lui a redonné, disons, une certaine actualité. Vous savez, il était l'ennemi vicieux du héros, du valeureux héros interprété par Russell Crowe. Les excès de Commode, son instabilité ont d'autant plus marqué les esprits que son règne vient juste après celui de son père, évidemment, Marc Aurèle, et que Marc Aurèle, c'est tout l'inverse. C'est l'empereur philosophe. Se plonger dans la vie de Commode, disons-le, c'est traverser l'histoire en partie légendaire de celui qui a clôturé la dynastie jusque-là si brillante des Antonins. Et tout à l'heure, avec Catherine Sall, nous reviendrons justement sur cette série d'empereurs hors du commun, les Antonins. Nous sommes donc, pour commencer, le 17 mars 180. 180 après Jésus-Christ, évidemment, sur les bords du Danube, l'empereur Marc Aurèle, qui règne depuis 19 ans sur Rome, est à ce moment-là très malade, tellement malade qu'il va mourir. Il était vraiment à la veille de mener une offensive contre les barbares. La situation se présentait bien pour Rome, et voilà que le décès du vieil empereur interrompt tout. Alors on se tourne vers celui qui est son héritier, tout naturel, puisque c'est son fils, son seul fils encore vivant. Il est âgé de 18 ans et il s'appelle Commode. Il est l'héritier de l'Empire. C'est intéressant parce que c'est la première fois dans la dynastie des Antonins, qui règne depuis la fin du 1er siècle, que la succession ne va pas se faire par adoption, comme d'habitude, mais par hérédité directe, quasiment hérédité naturelle, j'allais dire quasiment monarchique. Là, il y a quelque chose de... C'est le père qui va transmettre la couronne au fils, si je puis dire. Alors, qui est le jeune Commode? Voilà comment nous le décrit Hérodien. À l'épanouissement de son âge, il joignait une apparence remarquable, tant par ses heureuses proportions physiques que par la beauté mâle de son visage, car ses yeux étaient ardents et ses regards pleins de feu. Sa chevelure, naturellement blonde et bouclée, jetait des éclats si flamboyants que, s'il venait à marcher au soleil, certains croyaient à chacune de ses sorties qu'on la saupoudrait d'une poussière d'or. Donc vous voyez, un très beau jeune homme qui devient l'empereur de Rome. Et évidemment, on sait l'importance du physique chez les souverains. On se dit qu'il va peut-être être aussi bon qu'il est beau, cet empereur Commode. Oui, eh bien, on va vite déchanter. Parce qu'alors vraiment, sur le plan moral, ça n'est pas ça. Son tempérament se révèle inquiétant dès l'enfance. Voilà ce que prétend l'histoire Auguste. Je dis prétend parce qu'il faut toujours prendre ces sources-là avec quelques pincettes, évidemment. Il a 12 ans, le gamin. N'ayant pas trouvé son bain assez chaud, Commode ordonna de jeter l'étuviste dans la fournaise. Son pédagogue, qui l'en avait chargé, y fit brûler une peau de mouton dont la puanteur fit croire à Commode qu'on avait exécuté ses ordres. Entre parenthèses, on se dit que c'est une drôle d'éducation. Au lieu de le remettre à sa place, ce morveux, on lui fait croire qu'on a exécuté ses ordres en faisant brûler une peau de mouton. C'est quand même une drôle de façon d'élever un enfant. Marc Aurèle était d'ailleurs conscient du caractère très difficile de ce fils. Il a essayé de lui donner les meilleurs précepteurs. Il a essayé de lui transmettre le sens des responsabilités en le prenant presque toujours avec lui dans les campagnes militaires qu'il menait. Mais il n'y avait rien à faire. La vie de camp n'a rien fait. Commode n'était pas brillant, son discernement était très limité et il était surtout constamment cruel. Et alors, comme si ça ne suffisait pas, il était aussi un véritable adepte de la débauche. Et vous allez voir jusqu'où. Il s'entoura des hommes les plus corrompus, dit également l'auteur de l'histoire Auguste. Et quand on les lui ôta, il tomba malade de chagrin. La faiblesse de son père les lui ayant rendus, il fit du palais une taverne et un lieu de débauche. Il ne mit plus de bornes à son impudeur, à sa dépense. Il tint chez lui maison de jeu, etc. etc. Alors, est-ce que tout ça est vrai? C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec Catherine Salles. C'est toujours un peu délicat de donner de l'importance et du crédit à ses sources. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que le bonhomme n'est pas sympathique du tout. Alors déjà, lorsque son père meurt, lui n'a qu'une idée, c'est de rentrer faire la fête à Rome. C'est aussi simple que ça. Donc on va quand même négocier une paix avec les barbares. Quand je dis négocier, c'est qu'il est quand même très bien entouré. Il faut avoir ça comme constamment à l'esprit. C'est qu'il y a une haute administration autour de l'empereur qui, en quelque sorte, pallie tous ces excès et tous ces délires, bien entendu. Ce sont ces hommes expérimentés qui vont, d'une certaine manière, sauver l'Empire. Commode, lui, s'intéresse plus à ses maîtresses et à ses amants, d'ailleurs, qu'aux détails de la vie politique. On est à une période très importante, avec un équilibre assez précaire qui a l'air de vouloir s'installer. Voilà ce que raconte l'historien Paul Petit. Peut-être sa paresse aidant, malgré son goût des jouissances et des louches fréquentations, Commode eut-il poursuivi longtemps dans cette voie qui laissait intactes les traditions du règne précédent si une première conjuration n'avait éclaté. Et voilà le problème. C'est-à-dire que sur cette nature déjà passablement encline à la paranoïa, évidemment, le fait qu'une conjuration se monte contre lui va tout faire basculer. On est en 182. Et là, un complot trouble le jeune empereur. Il faut dire que là, il avait des raisons tout à fait objectives de s'inquiéter. Et non seulement il s'est inquiété, mais il a failli y passer ce jour-là.
De la bande originale du film Gladiator composé par Hans Zimmer à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant, Franck Ferrand continue de vous raconter l'histoire de l'empereur Commode.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Il était cruel et sanguinaire. Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les traces de l'empereur Commode cet après-midi. Et les complots se sont montés contre lui.
Et oui, un premier complot en 182, c'est-à-dire qu'on est dans la deuxième année d'un règne qui va en compter 12. On est très tôt dans le règne, c'est ça le problème. L'empereur, ce jour-là, le jeune empereur, se rend à l'amphithéâtre, au cirque si vous préférez. Il passe par un passage un peu sombre, et là, un homme se jette sur lui, un homme armé qui hurle « Voici ce que t'envoie le Sénat !» Si seulement cet assassin avait pu se taire, parce que, bah alors bien sûr, l'assassin est neutralisé, mais le mal est fait. Et voici ce que t'envoie le Sénat. Immédiatement, Commode veut savoir de quoi il retourne. Il fait faire une enquête contre le Sénat romain. Alors on déroule le fil du complot et on se rend compte qu'un certain nombre de personnalités éminentes sont impliquées dans ce complot, à commencer par la propre sœur de Commode et puis plusieurs sénateurs. Alors la réponse est implacable. On exécute à tour de bras, si je puis dire. Les exécutions élections vont être d'ailleurs beaucoup plus nombreuses que prévu, sans trop de, on ne regarde pas trop les détails, et c'est un véritable cercle vicieux qui se met en place, puisque d'un côté vous avez la folie, la faiblesse de l'empereur qui vont favoriser la formation de conjurations, et le fait que ces conjurations existent, la plupart sont éventées bien entendu, eh bien ça ne fait que déclencher des réactions brutales qui entretiennent la paranoïa de l'empereur. Commode est de plus en plus méfiant, il n'accorde plus sa confiance à personne, il se détourne d'ailleurs du pouvoir, il a maintenant autour de lui comme une sorte de cercle de favoris qui font un véritable rideau entre lui et la réalité romaine. Il faut voir que dans ces gens-là, il y a des gens très ambitieux, bien entendu, certains ont une véritable tendance à l'accaparement, ce qui veut dire que plus le temps passe et plus les élites romaines et plus le peuple même vont finir par se méfier de l'empereur et de la clique qui l'entoure. Et d'ailleurs, si le favori devient un petit peu trop impopulaire, si l'on considère qu'il regarde le trône, qu'il lorgne du côté du trône, Commode n'hésite pas à s'en débarrasser. Ce qui veut dire que c'est une véritable terreur qui s'installe dans les cercles proches du pouvoir. On est dans quelque chose que nous avons connu au XXe siècle autour d'un Staline, par exemple. Vous savez, ces gens qui vivent très près du soleil, mais qui s'y brûlent constamment et qui vivent dans la peur du matin au soir. Ça devait être assez terrible. Hérodien le souligne. « Il montra de la défiance pour tout le monde, écrit-il. Il commit meurtre sur meurtre, ajoutant aisément foi à toutes les calomnies, n'admettant plus en sa compagnie les gens de qualité et renonçant à manifester quelque ardeur pour le bien. Nuit et jour, son âme était l'esclave de ses plaisirs physiques. » Parce que c'est bien sûr ce qu'on retient de Commode, ces espèces de distractions où les pires débauches se mêlent à la plus incroyable cruauté. Voilà ce qu'on lit dans l'histoire Auguste. Il fendit un jour le ventre d'un homme gras rien que pour en voir sortir les intestins, vous voyez. Et un petit peu plus loin, on dit qu'il mêla souvent des excréments humains aux mets les plus recherchés et même qu'il en goûta lui-même pour se donner le plaisir, en croyant tromper ses convives, de leur en voir manger. Vous voyez à peu près jusqu'à quels abîmes on descend. Commode va encore plus loin dans sa démence, si possible. Il se prend bientôt pour Hercule. Alors il va passer son temps dans les arènes et il va jouer les combattants. Et comme nous le disions avec Catherine Salle avant que ne commence cette émission, il est assez étonnant de voir que les scénaristes du film Gladiator n'aient pas tiré parti de cette particularité tellement incroyable pour un empereur romain. Voyez ce qu'est un gladiateur à Rome. Un gladiateur, c'est vrai, certains ont une très grande popularité, hein, ce sont les idoles des foules, certes, mais statutairement, d'un point de vue social, ce sont des gens qui sont en dessous des esclaves. Ce sont des esclaves qu'on met ensemble pour les voir mourir. Donc le gladiateur, c'est la lie absolue du peuple. Eh bien, ça n'empêche pas l'empereur d'aller se mêler au gladiateur. Au point même, d'ailleurs, qu'on se soit posé des questions. Certains se sont demandé si Commode était bien le fils de Marc Aurèle. Et si sa mère n'aurait pas fauté avec un gladiateur, peut-être. Ce qui aurait expliqué d'ailleurs qu'il ait été si beau physiquement et si corpulent. Le sénateur Dion Cassius a laissé un récit de ce genre de combat bizarre. Il faisait son entrée en costume de Mercure, dit-il, et après s'être dépouillé de ses autres vêtements, il se mettait à l'œuvre seulement avec une tunique sans chaussures. Le premier jour, il tua 100 ours à lui tout seul, à coups de flèche du haut du pourtour de l'amphithéâtre. Quand il était fatigué, il buvait dans une coupe en forme de massue du vin miellé rafraîchi que lui présentait une femme, et au même instant, le peuple et nous crions « Vivat !» comme on a coutume de crier dans les festins. Commode ne se contente pas de montrer son adresse à l'arc, il se mue lui-même parfois en gladiateur dans des combats que, comme par hasard, il gagne toujours. Inutile de vous dire que les adversaires devaient être bien choisis et bien chapitrés. On le voit aussi animer à sa façon les spectacles de l'arène. Après lui combattaient les autres gladiateurs, raconte toujours Dion Cassius. Le premier jour, ce fut lui-même qui, du bas de l'amphithéâtre, en costume complet de Mercure, les accoupla tenant une verge d'or et assis sur un trône de même métal, circonstance que nous regardâmes comme un prodige. Vous voyez que tout ça va loin, très loin, c'est certain. Ils sont nombreux dans l'entourage de l'empereur et d'une façon plus générale dans les élites de Rome à se dire qu'il faudrait bien quand même que quelqu'un finisse par débarrasser la cité et l'empire de ce personnage, de cet empereur fou. Seulement, c'est une chose que d'avoir l'idée de tuer l'empereur, c'en est une autre d'aller au terme d'un tel projet, et il va se passer de longues, très longues, très très longues années avant que cela réussisse.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Il était empereur romain, il s'appelait Commode et nous faisons connaissance avec lui grâce à vous, Franck Ferrand, cet après-midi sur Europe 1. Un empereur dont le culte de la personnalité est très, très important.
Ah oui, son narcissisme n'a pas de limite, c'est un véritable fou, il faut le dire. Alors, il se fait d'ailleurs maintenant appeler Commode Hercule et il lui arrive de se présenter jusque devant le Sénat. Je ne sais pas si vous imaginez la tête des sénateurs, habillé seulement d'une peau de bête, hein, comme un Hercule avec une massue. Enfin bon, tout ça est complètement fou. Mais ce qui est encore plus fou d'une certaine manière, c'est que ces hauts personnages de l'Empire n'osent pas trop se moquer de lui parce qu'il est très dangereux. Il a vite fait de faire rouler votre tête dans la sciure, alors eh bien, on le laisse à ses délires, à son narcissisme, à son mysticisme qui souvent dépasse les frontières du ridicule. Par exemple, il a décidé qu'on donnerait au mois de l'année de nouvelles appellations, hein, donc ce ne sont plus les noms habituels des mois, désormais ce sont des noms et des surnoms de l'empereur, c'est-à-dire que tous les mois de l'année portent en quelque sorte le nom de l'empereur. De même, Rome est rebaptisée, ça devient une colonie commodienne, et c'est la même chose avec toutes sortes d'institutions, etc. Enfin, c'est absolument incroyable. Et pendant ce temps, les confiscations arbitraires, les procès expéditifs, les exécutions capitales se succèdent dans un climat de peur. Il faut imaginer l'angoisse de tout ce monde. Dion Cassius raconte ce qui s'est passé un matin au Sénat. Ça, c'était assez étonnant. Après avoir tué une autruche et lui avoir coupé la tête, dit Dion Cassius, quand même un grand historien qui parle, Commode s'avança vers l'endroit où nous, sénateurs, étions assis, et tenant la tête de l'autruche dans sa main, tandis que de la droite il brandissait l'épée ensanglantée, il ne prononça aucune parole et remua la tête en ouvrant la bouche, comme pour montrer qu'il pouvait nous en faire tout autant. Oui, l'ambiance générale au Sénat. Et alors, aux alentours de 189-190, hein, ça fait maintenant des années que l'empereur règne, on peut dire que la folie monte d'un cran, si possible. Là, il devient tout à fait impossible à suivre, ce pauvre Commode. En 192, il décide carrément que le cortège rituel du 1er janvier suivant, sera remplacé par un défilé de gladiateurs auquel il participera lui-même. Vous imaginez ce que ça représente? Je vous ai dit quel était le statut des gladiateurs dans cette société. Là, on se dit quand même qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est à qui va intervenir, vous comprenez? Une de ses concubines, elle s'appelle Marcia, se dit qu'elle peut peut-être faire quelque chose. Il faut vous dire que Commode a rédigé une liste des personnes qu'il souhaite mettre à mort à l'occasion du 1er janvier. Or, sur la liste, il y a tous ceux qui ont osé critiquer l'idée du cortège avec les gladiateurs. Donc Marcia décide, avec un certain nombre de complices, elle n'est pas toute seule bien entendu, elle décide de prendre les devants, elle va tenter d'empoisonner l'empereur. C'est elle qui lui tend la coupe empoisonnée, il ne faut pas trembler là dans ces moments. L'empereur prend la coupe, il la boit et très vite évidemment il est pris d'une espèce de fatigue. Mais ça ne l'étonne pas outre mesure parce que comme le précise Hérodien, qui a laissé un récit détaillé des événements, je cite, « En d'autres circonstances déjà, il avait éprouvé de telles indispositions. Comme ses bains étaient fréquents et que ses repas ne l'étaient pas moins, il n'avait pas de moment fixe pour dormir, pris qu'il était dans une succession ininterrompue de plaisirs. » Alors l'empereur est complètement affaibli, on le voit qui commence à s'écrouler dans un coin, on se dit que c'est peut-être bon. Non ! Il se réveille, il vomit le breuvage, et là, ça va être terrible, parce que tous ceux qui ont trempé dans ce nouveau complot, vous imaginez. Donc pour Marcia, c'est une catastrophe, et là, elle se dit qu'il est grand temps d'employer la méthode forte. Elle va convaincre un esclave qui s'appelle Narcisse, vous avouerez que c'est une ironie étonnante de l'histoire, Narcisse d'aller assassiner l'empereur dans son bain. Commode vient de s'installer dans son bain, et à ce moment-là, le jeune esclave arrive, il est un peu groggy l'empereur encore, et on va l'étrangler littéralement et le noyer comme ça dans son bain. C'est ainsi, de cette façon sordide, que s'achève l'un des règnes les plus scandaleux de l'histoire romaine. 13 années, vous imaginez. Rome est libérée, le Sénat exulte. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la ville, l'Ourps, Rome, a beaucoup souffert des folies de Commode. Mais l'Empire, pas tellement, somme toute. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant avec Catherine Salles. Ce que nous allons voir aussi, c'est qui et comment a bien pu succéder à un tel empereur. C'était la fin de la dynastie des Antonins. Nous reviendrons aussi sur cette dynastie parce qu'elle est passionnante. Vous voyez, somme toute, que ce règne aura surtout apporté beaucoup de matière aux chroniqueurs et à ceux qui aiment l'histoire scandaleuse. Vous me permettrez pour une fois de me ranger dans leur rang. Bonjour Catherine Salles.
Bonjour.
Nous avons parlé des choses horribles, nous allons venir maintenant aux choses importantes avec vous.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Narcissique, cruel et sanguinaire, il a régné pendant 13 ans. Nous vous parlons cet après-midi sur Europe 1 de l'empereur Commode. Franck Ferrand, vous recevez Catherine Salles, agrégée de lettres classiques et docteur S lettres, maître de conférences émérite à l'université Paris 10 Nanterre, spécialiste de l'Antiquité romaine.
Alors, justement, nous entendons, Catherine Salles, quelques notes de la musique du film Gladiator. Et c'est Gérard qui me fait remarquer que les scénaristes de Gladiator ont bien utilisé le côté gladiateur de l'empereur. C'est même la scène finale, nous dit-il. Oui, alors, c'est vrai qu'à la toute fin du film, on voit Commode descendre dans l'arène, puisqu'il meurt là. Bon, d'ailleurs,
général,
il meurt d'une façon qui n'est pas historique, ça non plus.
Oui.
Mais on n'a pas, ce que je sous-entendais, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas utilisé suffisamment ce travers d'un empereur qui passait ses journées dans l'arène, si je puis dire. C'est ça qui aurait été...
Voilà. Ça m'a semblé en voyant ce film.
Oui, voilà. Bon. Donc, il faut que nous revenions sur un certain nombre des aspects du bonhomme. Et puis après, on avancera et on verra quelles ont été les conséquences de cette folie pour la ville et pour l'Empire, bien entendu d'abord. Et c'est une question que vous posez pendant l'interruption tout à l'heure à Nissa. Est-ce qu'il a été marié, ce Commode ?
Oui, il a été marié, mais... Bon, comme pour beaucoup d'empereurs, c'était un mariage qui n'avait pas tellement d'importance.
Mariage de convention, d'ailleurs, il n'y a pas d'enfant.
Oui, il n'y a pas d'enfant.
Heureusement, on a envie de dire.
En cela, il est différent de son père, qui en avait eu 11 ou 12. Je ne me rappelle plus, Marc Aurèle avait été très prolifique. Non, il n'a pas de...
Il s'intéressait plus à son petit harem, si je puis dire.
Oui, son harem de prostituées dans laquelle il avait fait quand même rentrer des femmes de l'aristocratie.
Oui, voilà.
C'est un mélange. Et puis les mignons, il en avait beaucoup.
C'est-à-dire des amants, en fait.
Des amants, oui, des petits amants, des petits, ce qu'on appelle les mignons, c'est-à-dire ces jeunes gens, 14-15 ans. Quoi,
Et alors, il sortait entouré des prostituées et des mignons.
Oui,
d'ailleurs.
Et des mignons, où il allait dans les endroits officiels. Il pouvait même aller au Sénat, entouré de son cortège de dames et de jeunes gens.
Oui, tout ça est complètement fou. Justement, ça tranche tellement avec le règne d'un Marc Aurèle. Est-ce qu'il était le fils de Marc Aurèle, ce Commode ?
Moi, à mon avis, je ne pense pas. Les historiens anciens ont beaucoup parlé du gladiateur qui aurait été le père de Marc Aurèle, auquel il ressemblait beaucoup. Et ça me semble beaucoup plus convenir à cette personnalité très fruste. Enfin,
ça expliquerait que lui-même soit descendu dans l'arène, d'ailleurs.
Bien sûr, que lui-même avait ce goût pour les combats et aussi pour les courses de chars. Il conduisait des chars aussi dans l'arène.
Non, il ne s'arrêtait pas là. Mais ce qui est invraisemblable, c'est que ce Commode souffrait de troubles terribles de la personnalité. Sans être un psychologue, je crois qu'on peut dire ça.
Oui.
Et que peut-être ça pourrait venir d'un doute qu'il avait sur sa légitimité, après
tout. Probablement, parce que tout le monde parlait de l'amant gladiateur de sa mère. Ça, c'était bien connu à Rome. Et sa mère a eu beaucoup d'amants. Ce qui fait qu'on peut penser que beaucoup des 11 ou 12 enfants de Marc Aurèle n'étaient pas tous les enfants de Marc Aurèle.
D'où vient ce nom? Pourquoi est-ce qu'on l'avait ainsi nommé?
Commode, ça fait partie de son appellation, c'est dans ses noms. À lui, on n'a pas voulu lui redonner le même nom que son père, parce qu'en fait, il aurait dû s'appeler comme son père. Et donc, on a choisi parmi tous les surnoms qu'il y avait après Marcus Aurelius, on a choisi ce surnom de Commode, qui en latin n'a pas du tout la même signification que pour nous.
Et qui voulait dire en latin que...
Il n'y avait pas de signification, mais ça ne veut pas dire qu'il était facile ou aisé. C'est un des surnoms dans l'aristocratie latine.
Alors, je disais qu'il souffrait de troubles de la personnalité. Il aimait répandre son nom sur toutes les institutions, on l'a compris. Il aimait se déguiser lui-même. Il passe les dernières années de sa vie quasiment habillé en Hercule, C'est quand même étonnant.
Oui, c'est étonnant. Il y a d'ailleurs, il reste une belle statue de cette époque-là qui le montre. Une statue colossale où il est habillé en Hercule avec la peau du lion de Némée sur la tête. Et c'est vrai que c'est un bel Hercule, il n'y a pas de doute. Il est très bien en Hercule.
Oui.
Il aurait peut-être dû se limiter à ça.
Oui, être modèle pour les sculpteurs,
oui,
ça aurait suffi. En fait, il était entouré, et ça s'est très mal passé au Sénat à l'époque, il était entouré d'un certain nombre de conseillers qui n'étaient pas de bonne famille, et même, c'est encore pire du point de vue des Romains, qui n'étaient même pas Romains.
Il y avait un Bithynien, il y avait un Phrygien. C'était des gens qui étaient des... il y a quelques décennies, on aurait dit des métèques. Hein. C'était pas des gens qui faisaient partie de la citoyenneté romaine. Et donc, les sénateurs qui avaient quand même théoriquement tous les pouvoirs, voyaient très mal des étrangers, des métèques, leur passer devant.
Alors, j'ai raconté, et je me suis permis de le faire parce qu'il fallait quand même donner à nos auditeurs une idée du degré de débauche où descendait ce personnage, mais j'ai raconté des scènes un peu lestes, disons, c'est même le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on peut faire confiance aux auteurs de l'Antiquité lorsqu'ils nous racontent les excès et les abus d'un personnage comme Commode ?
Je ne sais pas, parce que vous avez cité effectivement les auteurs qui ont parlé de Commode, c'est-à-dire l'histoire
Auguste,
Hérodien, oui, et puis un peu Dion Cassius, mais dans la fin de son histoire romaine.
Dion Cassius qui lui-même était sénateur, donc assisté personnellement.
Et puis quand même un historien assez
très
crédible,
très solide, oui, voilà,
oui. Mais c'est vrai que chez lui, les derniers empereurs occupent peu de place dans son histoire romaine, parce qu'on n'a que les résumés, en fait. Et nous n'avons pas, au deuxième siècle de notre ère, nous n'avons pas l'équivalent de Tacite ou de Suétone, ça c'est vrai. Donc avec lesquels on avait quand même une histoire beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus élaborée. Là, il y a l'histoire Auguste. Alors l'histoire Auguste, elle est souvent d'abord écrite après le règne de ceux dont elle parle. Et puis c'est vrai que l'histoire Auguste aime bien accentuer les côtés négatifs des personnages. Enfin, pas pour tous, bien sûr. Mais pour Commode, c'était facile hein, de montrer qu'il était pervers, qu'il était débauché, qu'il était...
Et ça, cruel. Je crois que la cruauté est un aspect.
Il était atteint de... il mangeait tout le temps. Hein,
Il dormait tout le temps. Enfin,
voilà,
il était totalement déréglé, je crois que le mot...
C'est pour ça que ça leur faisait penser à Vitellius, qui avait occupé l'Empire pendant quelques mois avant Vespasien. Et Vitellius qui, quand il était avec l'armée en marche, il s'arrêtait dans tous les villages pour prendre un repas. Et même un jour où il était arrivé lors d'un sacrifice, il avait pris les entrailles de la bête et il les avait avalées toutes crues et chaudes.
Ouais. Et donc c'est quand même, il y a une forme de voracité.
C'est une forme de maladie aussi. Hein.
Alors c'est étonnant de voir que le premier personnage de l'Empire soit complètement fou. Ça dure plus de 12 ans cette plaisanterie,
oui,
si je puis dire.
Hein.
Et pour autant, on n'a pas l'impression quand on regarde l'histoire romaine que ça ait eu tellement de conséquences. L'Empire ne s'est pas affaibli sous le règne de Commode. Et il faut dire qu'il n'a rien fait en même temps.
Il a arrêté toutes les guerres. Il y avait quand même un certain nombre de guerres avec les peuples de la périphérie. Et lui, bon, il n'avait pas du tout envie d'aller se promener sur les champs de bataille comme son père. Son père l'avait d'ailleurs suffisamment fait promener, puisqu'il l'a mené avec lui.
Ça l'avait un peu dégoûté.
Par conséquent, il n'y a rien sur le plan extérieur pendant le règne de Commode. Alors que tous les autres, au contraire, ont été des conquérants ou des pacificateurs.
Commode est le dernier des Antonins. Avant lui, il y a eu Marc Aurèle, mais il y a eu quelques autres très grands empereurs.
Et Trajan et Adrien,
voilà,
bien sûr,
on va quand même en dire un mot de ces Antonins pour essayer de redorer un tout petit peu leur blason, Catherine Salle.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
L'empereur Commode est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Catherine Salle, agrégée de lettres classiques et doctoresse lettres, maître de conférences émérite à l'université Paris 10 Nanterre, spécialiste de l'antiquité romaine. Alors on l'a vu, la personnalité effrayante de l'empereur Commode, heureusement les autres étaient à peu près normaux.
Oui, parce qu'il est le dernier de sa dynastie, les Antonins, donc Commode. Avant, il y avait eu la dynastie des Flaviens qui se terminait par Domitien, décidément. Et puis encore avant, celle des Julio-Claudiens, évidemment, dont le dernier était Néron. Néron, Domitien, Commode. Il y en a d'autres, des horreurs comme ça dans l'histoire romaine, Catherine Salle ?
Pas vraiment. Enfin, je réfléchis, non, parce que après, il va y avoir la grande période d'anarchie durer presque 50 ans, donc il n'y en a plus à ce moment-là. Enfin, si, il y a Héliogabal
quand même,
pour les sévères, oui, il était pas mal Héliogabal. Et lui, il avait au moins une
Une pensée.
Alors que n'avait pas Commode.
On serait en peine de trouver une pensée chez Commode. C'est un paradoxe lorsqu'on est le fils qui plus est biologique officiel, hein, puisque on aura bien compris ce que vous en pensez.
Ça, en plus,
mais d'un des grands philosophes du pouvoir qui était Marc Aurèle.
Oui. Et puis qu'il est par adoption quand même l'héritier de gens comme surtout Adrien et Trajan, mais même Antonin le Pieux a été, même si c'était plus vague, a été quand même un bon empereur.
Marc Aurèle avait eu plusieurs fils. Pourquoi est-ce que c'est celui-là qui lui succède?
C'est l'aîné. C'est la primogéniture.
Enfin, c'est
l'aîné. Et on dit qu'heureusement, le jumeau était mort. Parce que sinon, on ne voit pas comment se serait résolu le problème.
Peut-être qu'ils se seraient entretués, les deux, ça aurait été possible. Alors, vous avez cité deux noms qu'il faut évoquer absolument lorsqu'il est question des Antonins. C'est bien entendu Trajan. Personnage extraordinaire, Trajan.
Trajan, c'est une merveille, Trajan. Parce que c'est à la fois un très grand militaire, c'est à la fois un très grand, je dirais, concepteur administratif. Il va remettre sur pied l'administration romaine, qui avait quand même été bien installée par les Flaviens avant. Mais surtout, il va parcourir...
C'est un urbaniste.
Ce qu'on connaît de lui, c'est la fameuse colonne Trajane. Mais cette colonne Trajane est une merveille architecturale et aussi une merveille pour comprendre comment les Romains se rendaient maîtres des peuples. Là, il s'agit des peuples du nord du Danube. Et c'est vrai que c'est une...
Modèle de notre colonne Vendôme, en fait, cette colonne Trajane.
Oui, il y a d'autres colonnes.
Il y en a
à Rome, plusieurs qui sont imitées de la colonne Trajane.
Avec ce bandeau de bas-relief qui permet de suivre les...
Que d'ailleurs, on ne peut pas suivre. Aucun spectateur ne peut suivre. Il faut aller dans le musée de la civilisation romaine où elle est mise, la colonne, au sol.
À plat, en quelque sorte. Oui. Alors après Trajan, il y a eu Antonin le Pieux, et puis, qui n'a pas fait grand-chose, lui, on peut pas. Mais ensuite arrive un personnage dont on a eu l'occasion de parler plusieurs fois.
C'est
grand empereur Adrien, bien sûr. Hein.
Qui a été aussi un grand administrateur, un grand voyageur, évidemment, un grand esthète, parce qu'alors lui, on lui doit la Villa Adriana, évidemment, mais beaucoup d'autres choses qui ne subsistent plus. Et c'est un homme qui, aussi, philosophiquement, était constamment poussé par cet abîme qui s'ouvrait devant lui. Il ne savait pas où il trouverait, finalement, la pensée réelle.
C'est une question un peu subjective que je vais vous poser, mais où faut-il placer l'apogée de l'Empire romain?
À cette époque-là. Oui. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, l'âge d'or de l'Empire. Hein. C'est tout le second siècle de notre ère. Ça s'arrête avec Commode.
C'est incroyable, ça. C'est-à-dire qu'il n'a, si j'ose dire, aucune excuse, ce Commode. L'empire dont il hérite est un empire en pleine forme.
En pleine forme, très bien organisé, parce que tous ces empereurs successifs ont fait une nouvelle organisation qui donnait beaucoup de pouvoir aux provinciaux, ce qui n'était pas le cas au siècle précédent.
Quel était le rôle de l'empereur au sommet de tout cet édifice? Parce que nous avons vu que finalement les débauches, les folies, les excès, les abus de Commode n'ont pas eu d'impact considérable sur la vie de l'Empire. On a presque envie de se demander si l'empereur sert à quelque chose. Quel est son rôle?
Il servait beaucoup, il a beaucoup servi au second siècle dans le cas de toutes les guerres qui se sont quand même déroulées. C'était des guerres bien souvent de pacification parce que l'Empire romain ne s'est pas tellement agrandi à ce moment-là. On n'est pas passé au-delà des limites. D'ailleurs, Auguste l'avait demandé. Il avait demandé qu'on s'arrête là pour l'Empire romain. Mais ce qu'ont fait Trajan et Adrien, c'est qu'ils ont quand même pacifié toute la région du Danube et du Rhin. Une région très délicate à l'époque, parce que bientôt vont arriver les hordes, même si c'est pas tout à fait la réalité comme ça, mais les hordes de barbares, c'est par là qu'ils vont entrer.
En tout cas, il y a la poussée aux frontières, aux limesses.
Il y a la poussée des barbares qui arrivent.
Alors, Trajan, Adrien, Marc Aurèle, Commode, j'ai envie de dire, chercher l'intrus, chercher l'erreur. Et que va-t-il se passer après Commode? Parce que là, nous l'avons laissé étrangler dans son bain. Mais alors après?
C'est-à-dire que là, on tombe déjà dans les problèmes. Parce qu'il ne va pas y avoir de successeur à Commode. Il va y avoir à peu près une année de troubles, les gens se tuent, il y a plusieurs...
Parce que tout le monde veut prendre le pouvoir, le pouvoir est vacant,
dit, après
en fait.
Tout,
pourquoi pas moi?
On fera aussi bien que lui.
On ne pourra pas faire pire.
Et finalement, celui qui va dominer les autres, c'est un... Alors là, c'est vraiment un étranger, il vient de la Yougoslavie actuelle, quoi, c'est Septime Sévère, et ce qu'il y a surtout dans le cas de Septime Sévère et de ses fils, qui seront ses héritiers, c'est que mères, femmes, sont des prêtresses, les prêtresses d'une divinité syrienne, elles viennent de Syrie, et donc, à cause de leur rôle de prêtresse, elles vont avoir une influence extraordinaire sur les empereurs.
Mais c'est-à-dire que ce ne sont plus des, pour le coup, ce ne sont plus des Romains qui règnent.
Ce ne sont plus
là.
Des Romains. Ce ne sont plus des Romains.
C'est assez extraordinaire.
Et ce n'est plus la religion romaine qui est en première ligne. Hein. C'est la religion de cette déesse syrienne, Dea Syria, on ne sait pas très bien qui c'est. Et puis, ça va être suivi après, à partir de 220 de notre ère.
Alors là, c'est l'anarchie.
C'est l'anarchie complète. Ah. Il y a un empereur tous les 6 mois, à peu près.
Oh là là là, oui. Bon. Avec quand même une
administration. Un seul meurt dans son lit.
Et une administration qui tient quand même qui tient
dans
à peu
les
près.
Provinces. Dans oui. les provinces, il y a une bonne administration.
Il y a des préfets, comme on dit. Hein,
les
c'est
préfets
ça
des provinces, oui. Tout ce qui était dans les provinces a bien tenu. Rome, ça a été plus compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier quand même une chose. Au IIIe siècle, vous avez un groupe socio-religieux qui est en train de prendre une influence considérable. Ce sont les chrétiens.
Et oui.
Faut pas les oublier, ceux-là, hein, mm-hmm. parce qu'ils sont en train de devenir. Ils sont en train d'occuper la moitié de la population de l'Empire.
Ils sont en train de faire fissurer l'Empire d'une certaine manière sur ses bases.
Diocletien qui va tenter de les bloquer.
Il faut dire un mot de cet extraordinaire Dioclétien dont on voit encore les restes du fabuleux palais à Split, hein, sur la mer Adriatique.
Tout à fait. Lui aussi, c'est un homme là-bas de ces pays.
Encore un qui ne vient pas de Rome. Hein.
Non, de ce pays danubien, enfin de. Mm-hmm. C'est vrai que c'était un très bon militaire, et surtout, il a eu comme but de rétablir l'unité de l'Empire, parce que l'Empire était en train de se déchirer de tous les côtés, et il a de faire par la religion.
Eh oui.
C'est-à-dire qu'il va créer, enfin, il va pas le créer, il existait, mais il va rendre obligatoire le culte de soit Deus Invictus, soit Sol Invictus, enfin, c'est selon le cas.
Soleil invaincu.
Le soleil invaincu, qu'on fête le 25 décembre, mm-hmm. et ce n'est pas.
C'est l'ancêtre de Noël, si l'on veut dire.
C'est pas un hasard si Noël a été placé le 25 décembre.
Mais bien sûr. Et ce Dioclétien avait mis en place le système dit de la tétrarchie, qui était très mûr et très intelligent,
très
quand même.
Très intelligent, parce que cet empire était devenu tellement grand qu'il était absolument ingérable.
Oui.
Et donc, il a pensé que l'idée était de le séparer en quatre. Et ça va être aussi ce qui va se produire dans les années qui suivent, où il a 4 successeurs, en fait.
Mais enfin, on peut dire ce qu'on veut. Alors évidemment, il y a Aurélien et Dioclétien, bon, admettons. Et puis Septime Sévère, sous certaines réserves. Mais oui. On peut dire quand même que, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais après Commode, il n'y a plus de grand empereur.
Hein, c'est quand même incroyable. Il n'y a plus de grand empereur, et je dirais même il n'y a plus d'empereur.
Il n'y a plus d'empereur, finalement.
Parce que les Antonins étaient déjà d'origine provinciale. C'était des Espagnols. C'était des Espagnols et l'un d'eux était gaulois. Antonin le Pieux était gaulois. Mais c'était plus des Romains. Hein.
C'est quand même terrible. Le ravage de.
Eh oui, les Julio-Claudiens étaient des Romains. Et Flavien étaient des Italiens. Et ensuite, ce sont des peuples de l'Empire avec les plus proches, c'est-à-dire Espagnols et Gaulois. Et ensuite, les Syriens et les Africains.
Je signale à nos auditeurs, Catherine Salles, que Talandier vient de faire paraître dans sa collection de poche, dans la collection Texto, Le Grand Incendie de Rome, 64 après Jésus-Christ, qu'on peut donc lire chez Texto. Merci beaucoup Catherine, et merci à Pierre-Louis Lancel de nous avoir donné l'idée et la matière de cette émission.
Instant, Franck vous répondra à la question de Marie qui veut en savoir plus sur les origines de la commode, mais le meuble.
Cette fois, c'est la
Cette
commode.
Fois, c'est voilà. La commode, à tout de suite.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Après avoir parlé pendant une heure de l'empereur Commode, Marie vous pose cette question sur Europe1.fr, Franck Ferrand. Elle voudrait en savoir plus sur les origines de la Commode, le meuble, et elle voudrait savoir s'il y a un lien avec l'empereur Commode.
Alors, non, il n'y a pas de lien direct avec l'empereur Commode, sinon que, évidemment, ça vient du même mot, hein, c'est l'adjectif latin commodus, donc, qui veut dire, c'est assez difficile à traduire, mais en gros, de bonne mesure, si l'on veut, une chose qui est convenable et de bonne mesure. Et ce mot devient un mot français en 1580, avec la signification de quelque chose de profitable, d'avantageux, quelque chose de commode, hein, tout simplement. Bon, en 1603, l'usage de l'adjectif qualifie également une personne riche, quelqu'un de commode, ou alors une personne qui a le caractère doux et facile. On dira aussi, ça c'est sous Louis XIV, et puis ça ne durera pas longtemps, ce qu'on appelait une femme commode, ça voulait dire une femme qui cachait les turpitudes de sa voisine ou de sa commère. Voyez, bon, bref. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, venons à notre meuble, on conservait la lingerie dans des coffres, vous savez, alors il fallait ouvrir un lourd couvercle quand vous vouliez le drap qui était tout au-dessous, vous imaginez, il fallait tout enlever, c'était très compliqué, très difficile, et l'on s'est mis à inventer, mais beaucoup plus tard, hein, au XVIIe siècle, on se met à inventer ce meuble qui s'ouvre par devant, et alors qui va avoir des tiroirs. Nous, ça nous paraît tellement évident, il y en a partout des tiroirs, mais à l'époque, c'est une invention formidable, et on trouve cela très commode. Voilà pourquoi on va se mettre à appeler ainsi ce meuble à tiroir la commode, qui est commode tout simplement. La première fois qu'on utilise le mot pour désigner le meuble, c'est chez le duc d'Antin en 1708. C'est un rapport qu'il écrit à Louis XIV. Il dit en venant ici, j'ai passé par Paris pour voir chez Guimard les deux commode qu'il fait pour la chambre de votre majesté à Marly, il n'y a plus que les tiroirs à faire. En vérité, les meubles en question, ils n'iront pas à Marly, mais au Grand Trianon. Ils sont considérés aujourd'hui comme peut-être les plus jolis meubles ou les plus savants, les plus réussis de tout le mobilier français du XVIIe siècle. Ou du début du XVIIIe.